le magazine des Nations Unies.
Bonjour à tous et bienvenue à vous dans le magazine des Nations Unies dont voici les titres. Dialogue national, la MONUSCO se dit prête à offrir ses bons offices. Martin Kobler, chef de la mission, se félicite aussi du succès des opérations conjointes FRDC-MONUSCO contre le FRPI et soutient l'exhumation des corps de la fosse commune à Maluku. Les détails dans un instant. Le PAM, Programme Alimentaire Mondial, distribue dans le cas des activités humanitaires environ 1 million de vivres de tonnes à travers le monde, dont 65 000 tonnes en RDC. Voilà pourquoi cette agence tient le leadership de la logistique du système des Nations Unies. Dans cette émission, un éclairage sur une plateforme nommée Cluster Logistique, placée sous l'égide du PAM. Enfin, plus de 80% de la population en Ituri et dans les deux Kivus perçoivent une rapide amélioration du sentiment de sécurité. C'est l'un des résultats de deux sondages réalisés conjointement dans cette partie du pays par Harvard Humanitarian Initiative et le PNUD en collaboration avec la section des affaires civiles de la MONUSCO. Éclairage sur le contenu de ce projet avec l'invité du magazine des Nations Unies. Voilà tout pour les titres.
Magazine des Nations Unies, actualité de la semaine.
Déposez les armes et rejoignez le processus DDR. C'est le message de Martin Kobler aux miliciens du FRPI, message lancé au cours de la conférence des Nations Unies mercredi dernier à Kinshasa. Et pour le chef de la MONUSCO, seule l'union fait la force, allusion faite aux opérations menées conjointement avec les FRDC contre les rebelles du FRPI en Ituri. Et ce, dans le strict respect des règles d'engagement aux droits de l'homme liées à la protection des civils. Trois autres sujets importants ont été abordés avec la presse. Les détails avec vous, Jean-Pierre et Lali Coco.
Le message du chef de la MONUSCO aux miliciens des FRPI est clair. Déposez les armes, la paix vaut mieux que la guerre. Selon lui, les membres de ce mouvement rebelle ont quitté la table des négociations et refusé de s'engager dans le processus DDR. Solution, la MONUSCO s'engage aux côtés FRDC dans les combats que ces dernières mènent contre ce mouvement, mais dans le strict respect de l'engagement des droits de l'homme lié à la protection des civils et de la politique de la main tendue. Martin Kobler.
On a essayé alors de négocier le gouvernement ensemble avec nous pour les convaincre de se rendre sous notre abri, d'abandonner les armes, de déposer les armes, d'entrer dans le processus de DDR, mais les FRP ont décidé de quitter la table des négociations. Selon nos règles d'engagement, on limite toujours, on vérifie très intensivement si on protège les civils pendant les opérations.
L'autre message, c'est que l'union fait la force. Martin Kobler en veut pour preuve le succès de ces opérations militaires.
On a lancé des combats terrestres et aériens contre les FRPI. Et je dois dire, c'était vraiment un succès du point de vue militaire.
L'unité étant une vertu également, la coopération avec les FRDC devrait se poursuivre aussi dans la reprise des opérations conjointes contre les ADF dans les territoires de Béni, soutient encore les représentants spéciaux. Autre sujet abordé avec la presse, c'est l'appel de l'opposition aux représentants spéciaux à faire de la médiation dans le cadre du dialogue initié par le chef de l'État. Martin Kobler s'est dit prêt à offrir ses bons offices, mais soutient-il, les tangos se dansent à deux.
En anglais, on dit, alors, it takes two to dance a tango, il faut deux personnes pour danser. Nous avons offert nos bons offices, mais il faut avoir le consentement des deux parties. Ça ne marche pas si on impose, on ne peut pas imposer les bons offices.
Par ailleurs, la MONUSCO soutient l'exhumation des corps à la fosse commune de Maluku.
Premièrement, les investigations doivent être transparentes et doivent être crédibles. Deuxièmement, nous avons offert notre assistance. Et troisièmement, alors on a toujours recommandé d'ouvrir et d'exhumer. Mais c'est au gouvernement de l'affaire, on ne peut pas faire plus que recommander de lancer les exhumations et d'offrir l'assistance de la MONUSCO.
Enfin, concernant le trafic d'armes, l'une des causes qui alimente et perpétue les conflits dans l'est de la RDC, le chef de la MONUSCO estime qu'il faut tout faire pour arrêter ces trafics.
Autre actualité, le 14 juin, c'est aujourd'hui. Cette date est consacrée à la journée mondiale du donneur de sang. Merci de me sauver la vie. C'est sous ce thème qu'est placée la campagne de cette journée cette année. Honoré Missenga Kalala nous fait le point de l'intérêt de la dite journée à travers le monde en général et en RDC en particulier.
Le thème de cette année, Merci de me sauver la vie, vise justement à remercier les donneurs de sang qui sauvent des vies tous les jours grâce à leurs dons. Au-delà du sentiment de gratitude, l'objectif est aussi d'encourager davantage d'autres donneurs éventuels à donner volontairement leur sang. Et à ces donneurs éventuels, le slogan est « Donnez librement, donnez souvent, le don de sang, ça compte ». Autre objectif de la campagne, persuader les ministères de la Santé des pays du monde à témoigner de la reconnaissance aux donneurs réguliers volontaires et à fournir les ressources adéquates afin de leur prodiguer des soins de qualité. Un message spécial à l'occasion de cette journée mondiale, c'est celui de la directrice régionale de l'OMS pour l'Afrique. Selon le docteur Matidizo Mweti, même si les pays de la région ont enregistré des avancées en matière de collecte de sang, le nombre de dons reste faible en Afrique. Près de 4 millions de poches de sang collectées en 2013, soit une couverture de seulement 50% des besoins annuels, fait remarquer la directrice régionale de l'OMS. Pour le cas particulier de la RDC, les chiffres du programme national de transfusion sanguine de l'année dernière sont encore loin en dessous de la moyenne. Le sang collecté couvre 30 à 35% des besoins, évalués à 450 000 poches de sang sécurisées par an. Et dans son message de circonstance, la directrice de l'OMS Afrique déclare que son bureau continuera à fournir un appui aux pays du continent et à soutenir toutes les initiatives appropriées, initiatives destinées à améliorer l'accès au sang et aux produits sanguins sûrs, capables de sauver les vies des patients qui en ont besoin.
Magazine des Nations Unies, décryptage.
Dans le système onusien, un cluster est une entité de coordination mise en place pour faciliter les opérations humanitaires au niveau de chaque pays en vue de mieux servir les bénéficiaires. Agence à vocation humanitaire, le PAM dirige dans ce système le cluster logistique au niveau mondial et en RDC. Monsieur Christophe Chollet est responsable de cette entité au PAM RDC. C'est avec lui que le magazine des Nations Unies s'est entretenu pour faire le point des activités de ce service. Suivez son entretien avec Honoré Missenga Kalala.
Christophe Chollet, bonjour.
Bonjour Honoré.
Christophe Chollet, le PAM est le chef de file du cluster logistique tant au niveau global qu'au niveau national en RDC. D'abord, expliquez un peu aux auditeurs, qu'est-ce que vous entendez par cluster logistique?
Le cluster, c'est une plateforme de partage et d'échange. C'est une entité de coordination qui a pour but de faciliter les opérations humanitaires dans chaque pays, comme ici au Congo, et permettre de mieux servir les bénéficiaires avec une bonne efficacité opérationnelle à des coûts optimum. Donc le cluster logistique, c'est un groupe de partenaires qui mettent en commun leurs moyens opérationnels, stratégiques, des idées aussi, des informations, dans le but de faciliter les opérations de chacun. Ça peut être aussi un groupe de réflexion. L'idée, c'est de réduire les goulots d'étranglement en logistique, notamment dans le domaine des approvisionnements. On met en commun certains moyens, les transports, le stockage, et surtout beaucoup de ce qu'on appelle information management. C'est donc le partage des données, des informations, parfois en temps réel, en tout cas si c'est possible. Et aussi beaucoup d'informations qui sont reliées à la cartographie et au système d'information géographique. Donc on a une cellule au niveau du cluster avec un expert. On édite des cartes pour les partenaires avec des données bien spécifiques au domaine humanitaire.
Pourquoi c'est le PAM qui est le chef de file et non par exemple le PNUD ou une autre agence onusienne?
Il faut savoir que parmi l'ensemble des agences des Nations Unies, le PAM est probablement celle où la logistique est vraiment le cœur de métier. Donc dans le cadre des activités humanitaires, le PAM transporte et distribue d'énormes quantités de produits alimentaires à travers le monde. On parle de près d'un million de tonnes par an au niveau global, au niveau international. En République démocratique du Congo, c'est de l'ordre de 65 000 tonnes de nourriture qui sont distribuées chaque année. Donc effectivement, le PAM est l'agence leader dans le domaine de la logistique et donc qui a des capacités, des connaissances, une grande expérience et une bonne expertise de la logistique. Et donc nous pouvons faire profiter de ses capacités à l'ensemble des autres organisations de l'ONU, des organisations humanitaires, gouvernementales, non gouvernementales. Nous soutenons aussi la MONUSCO, notamment à travers le système de partage de services logistiques.
Oui, mais on constate que le cluster logistique ne couvre que 6 provinces de la RDC. Je citerai la province orientale, les deux Kivu, l'Équateur, le Maniema et le Katanga. Mais pourquoi seulement 6 provinces?
Oui, le cluster est présent dans ces 6 provinces qui ont été identifiées comme le présentant, en tout cas en ce moment, les urgences humanitaires les plus importantes. Ceci est combiné avec les besoins des partenaires sur place, en termes de support, en termes de coordination, en termes de gestion de l'information aussi. Donc c'est pas un choix qui est figé, c'est quelque chose qui évolue. Le cluster logistique fonctionne d'une manière très flexible, donc il se déplace en fonction de l'évolution des besoins, des activités qui vont se déplacer dans un pays qui est finalement immense, et on doit définir des priorités. Par exemple, lors de l'urgence Ebola l'an passé, le cluster a été activé dans la zone de l'Équateur, donc Boindé, de manière très très localisée. Ça aurait pu être dans une autre province, donc c'est vraiment en fonction des besoins d'urgence et des besoins ponctuels humanitaires.
Oui, par rapport aux besoins, est-ce qu'on peut avoir une idée sur les grandes activités réalisées par cluster logistique?
Alors, à travers le mandat de coordination pour les services communs et à travers le système des Nations Unies et des partenaires, on peut dire que le cluster en RDC repose sur 3 piliers. Il y a la gestion de l'information qui est combinée à la fois par la partie logistique et la partie géographique, cartographie. Le deuxième pilier, c'est faciliter l'accès aux zones d'activité humanitaire, notamment pour les opérations d'urgence, mais pas uniquement. Donc, il faut savoir que, vu la complexité de la RDC, sans accès, on ne peut pas imaginer faire des opérations humanitaires. Donc, la logistique est vraiment au centre de tout, c'est le cœur de toute l'activité. On ne peut pas imaginer des activités de distribution, de santé, même de protection, si on ne peut pas d'abord garantir un accès, un approvisionnement, des structures, des infrastructures. Donc, tous ces autres acteurs, ce sont un petit peu nos clients aussi. Et enfin, il y a le troisième pilier, qui est la cartographie et le système d'information géographique. Donc, on édite des cartes, on a un expert qui s'occupe de gérer une base de données géographiques, et on met à la disposition de nos partenaires des cartes qui sont très précises et surtout qui sont très documentées en termes d'information. Ensuite, sur des exemples d'activités du cluster logistique, nous avons des réunions mensuelles de coordination au niveau national et au niveau provincial auxquelles tous nos partenaires sont conviés. Nous faisons donc des partages d'informations en temps réel sur l'état des routes, les transports aussi par air, fluvial, lacustre, les voies ferrées bien sûr. Nous couvrons les corridors humanitaires qui sont extérieurs à la RDC et qui permettent d'approvisionner la RDC. Vous savez que par exemple tout l'est du pays est approvisionné à travers la Tanzanie, le Kenya, l'Ouganda, mais aussi on regarde de manière très précise les routes à travers le Rwanda et le Burundi, parce que pour nous c'est vital de pouvoir passer par ces pays-là. Donc ça veut dire qu'il y a une veille permanente pour savoir si la frontière passe correctement. Donc c'est une recherche d'informations qui est très précise. Ensuite, on met à disposition donc nos capacités en cartographie grâce à une base de données partagée. Et nous éditons des cartes à la demande. Et dans ce cadre-là, nous sommes en train de déployer une formation sur les GPS. Donc le GPS, c'est un outil qui est très utile maintenant pour collecter des données. Nous sommes en train de mettre en place une formation qui va se dérouler sur la deuxième quinzaine de juin et sur le mois de juillet dans les provinces. Donc pour nos partenaires, nous allons les former à l'utilisation du GPS. Je vais juste mentionner un autre point aussi qui est important par rapport à nos activités, parce que c'est quelque chose qu'on est en train de développer. C'est la mise en œuvre de ce qu'on appelle le Logistic Capacity Assessment. Donc nous avons un expert qui vient de démarrer son activité, qui va visiter toutes les provinces, ou en tout cas les plus importantes, pour faire des relevés d'informations sur toutes les capacités existantes, donc l'état des routes, mais aussi les capacités de chargement, de déchargement, les ports, les capacités aériennes, et les capacités des fournisseurs, notamment les transporteurs, parce que pour nous c'est extrêmement important de pouvoir être soutenu par les entreprises locales aussi.
Monsieur Christophe Chollet, merci.
Merci à vous, Honoré.
En plus bref, rendons-nous d'abord au Sud Kivu, lancement d'un projet de construction de deux bâtiments pour la Direction Générale d'Immigration, DGM en sigle, à Louvungi, dans la plaine de la Ruzizi, à une soixantaine de kilomètres d'Uvira. Un projet de la MONUSCO dont la première pierre a été posée lundi dernier par le gouverneur de province, Marcelin Chisambo. Restons au Sud Kivu et dans le volet humanitaire cette fois-ci, où plus de 13 000 familles congolaises d'Uvira, accueillant des réfugiés burundais, ont reçu du PAM pour un mois des vivres entre le 5 et le 9 juin 2015. Enfin, MONUSCO, 15 ans après, c'est le thème d'une conférence débat organisée vendredi 12 juin à l'université de Kinshasa. Martin Kobler a participé à cette conférence qui s'inscrit dans le cadre de la démarche qu'il a entamée depuis le début de l'année. Démarche consistant à rencontrer les différentes couches de la population congolaise, notamment les jeunes, dans le but de promouvoir la compréhension du mandat de la MONUSCO et de recueillir en même temps leurs sentiments sur le travail de la mission en RDC. Environ 700 étudiants de l'université de Kinshasa ont répondu présents à cette rencontre.
Magazine des Nations Unies, l'invité.
Nous le disions en titre, plus de 80% de la population en Ituri et dans les deux Kivu perçoivent une rapide amélioration du sentiment de sécurité. C'est l'un des résultats des sondages sur la consolidation de la paix et la reconstruction en République démocratique du Congo. La présentation des résultats de ce projet a eu lieu mercredi à Kinshasa en présence du chef de la MONUSCO, Martin Kobler, et du représentant du ministre de la Justice. Ce projet est une initiative conjointe de la Harvard Humanitarian Initiative et du PNUD, en collaboration avec la MONUSCO. Patrick Vink, directeur du programme Harvard Humanitarian Initiative, un des acteurs du projet, est notre invité. Il répond aux questions de Jean-Pierre Elali Coco.
Patrick Vink, bonjour.
Bonjour.
Vous venez de publier les résultats sur la collecte des données sur la consolidation de la paix et la reconstruction en République démocratique du Congo. Est-ce que nous pouvons connaître le résultat de ce travail?
Bien sûr, les résultats sont très larges. Donc l'idée du travail, c'est avant tout de consulter la population de façon régulière, tous les trois mois, sur des sujets de société, sur des questions de sécurité, de protection, sur des questions d'accès à la justice, et aussi sur des questions d'actualité. Donc, l'idée, c'est de poser pas mal de questions à la population pour mieux comprendre sa perception au quotidien. Alors, il y a beaucoup de résultats. Si j'en prends quelques-uns pour donner des exemples, c'est une amélioration très rapide de sentiment de sécurité dans certaines zones de l'est du Congo, surtout le petit nord, donc les territoires qui étaient sous l'influence du M23. Après la défaite du M23, on voit une amélioration très rapide de la sécurité. Mais en même temps, on voit que la perception des acteurs de la sécurité comme la police, les FARDC ou la MONUSCO, cette perception ne s'améliore pas forcément de la même façon. Et donc il y a encore beaucoup de méfiance par rapport à certains de ces acteurs. Un autre résultat, par exemple, c'est la confiance de la population envers les systèmes de justice. On voit que au cours du temps, malgré beaucoup d'efforts faits pour le renforcement de la justice, il y a encore un manque de confiance, un manque d'accès de la population par rapport à ces services de justice, et donc encore des efforts importants qui doivent être faits.
Parce que vous avez parlé de la perception, est-ce qu'on peut connaître un tout petit peu les thématiques qui ont été abordées dans votre enquête?
Alors les deux thématiques principales sont celles de protection, sécurité, sentiment de sécurité, et la thématique d'accès à la justice. Mais après ça, nous avons une certaine flexibilité quand des demandes, des questions se posent par rapport aux actualités. Donc un exemple, c'est la perception de la population par rapport aux actions contre les FDLR qui a eu lieu dans l'Est. Et là, ça nous permet d'avoir un sentiment, la perception de la population. Est-ce qu'elle est au courant de ces actions? Est-ce qu'elle pense que c'est une bonne chose? Et est-ce qu'elle pense que ça va avoir un effet sur la paix? Et on voit que sur cette question particulière, dans l'ensemble, il y a une perception très positive. Les gens pensent que c'est une bonne chose et que ça va avoir un effet sur la paix, sauf dans les zones qui sont concernées, la ville de Goma, le territoire de Nyiragongo, le territoire de Masisi, où on voit une certaine crainte par rapport à ces opérations et beaucoup moins de gens qui sont convaincus que ça va avoir un effet sur la paix. Donc c'est important de comprendre cette dynamique, alors que ça va permettre de mieux engager ces populations, essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'il y a une certaine crainte, et en particulier ici, c'est la crainte de la militarisation du milieu, de l'arrivée, des combats, et donc il y a une dynamique normale qui a lieu ici.
Oui, et est-ce que nous pouvons avoir aussi une idée sur le financement de ces projets?
Bien sûr, alors les financements, c'est toujours, on a toujours besoin d'argent d'une certaine façon. La partie importante des financements ici est assurée par USAID, donc la coopération américaine, par la coopération suédoise et la coopération canadienne qui ont bien voulu supporter ce projet ensemble pour 3 ans. Une partie importante de ce travail va dans le travail avec les universités nationales pour s'assurer que dans le futur, ce type de sondage, ce type de recherche puisse continuer à être fait sans financement extérieur, qu'on arrive à trouver un système flexible qui permette encore une fois de mieux comprendre la population.
Et le montant ?
Le montant, alors là il faudrait parler avec mes collègues du CNUD, je pense que le financement est de 1,5 million pour les 3 ans de l'intervention.
Nous pouvons savoir maintenant la prochaine étape du travail que vous allez faire.
Alors le travail a 2 grandes composantes. Un, c'est de continuer à s'assurer que des données de qualité soient disponibles. Et donc pendant au moins les 2 années qui viennent, nous allons continuer à produire des sondages, à collecter des données tous les 3 mois en collaboration avec nos partenaires universitaires et au niveau des Nations Unies. Et l'idée donc c'est de continuer à suivre ces données au cours du temps. Et ça a un deuxième effet qui est celui de l'utilisation de ces données. Le but c'est que ces informations soient utiles aux gens qui prennent des décisions par rapport au programme, par rapport aux interventions qui peuvent avoir lieu et qu'ils comprennent mieux les attentes de la population, qu'ils comprennent mieux les effets qu'ils ont et qu'au final, les programmes répondent mieux aux besoins qui existent dans l'Est. Donc il y a une composante évaluation qui est déjà en place quand le PNUD, par exemple, cherche à mieux identifier, mieux concevoir ses projets, il se tourne vers nos données pour mieux comprendre la dynamique sur le terrain.
Monsieur Patrick Vinck, je vous remercie beaucoup.
Merci à vous.
Le Bureau de coordination des Nations Unies pour les affaires humanitaires, OCHA en sigle, a plaidé en début de semaine pour l'ouverture d'un couloir humanitaire dans la collectivité de Walindu-Bindi, en Ituri. Cela à la suite des mouvements des milliers de personnes fuyant les derniers affrontements entre les FRDC appuyés par la force de la MONUSCO et les miliciens du FRPI. Martial Kiza, Biamungu pour les détails.
Ces déplacés proviennent de villages de Kanyamagarao, Boulé, Awende, Kororo, Mokoro, Lusajo, Nyaigo, Nyamutekera, Katoto, Arava et Chalipa. Des sources dans la région confirment ces mouvements de déplacés. Ils sont majoritairement composés des femmes et des enfants. Un notable de Walindu-Bindi joint au téléphone depuis Bukiringi indique qu'ils sont arrivés dans ces deux localités avec quelques effets personnels. Patrick Adido souligne que ces personnels sont dans des familles d'accueil tandis que la grande partie passe nuit à la Belle Étoile. À Bounia, le bureau provincial d'Otcha a dit prendre au sérieux cette situation. Selon José Bonyoma, chargé des affaires humanitaires associé, une équipe composée de 2 ONG s'est rendue mardi matin dans la région pour évaluer la situation. Cependant, il indique que les acteurs humanitaires sont confrontés aux problèmes sécuritaires qui existent dans la région pour atteindre ces déplacés. Il parle de plus de 10 000 personnes déplacées éparpillées dans plusieurs villages de Walindu-Bindi et qui ont besoin d'une assistance humanitaire. José Bonyoma indique que les contacts sont déjà établis avec les belligérants pour obtenir un couloir humanitaire. Bounia, Martial Kizabiamungu, Radio Okapi.
Magazine des Nations Unies, question aux Nations Unies.
La question de ce dimanche a trait à la situation humanitaire et sécuritaire dans la plaine de Ruzizi après l'afflux de milliers de réfugiés burundais dans ce territoire. Vous suivrez la réponse de Félix Bass, porte-parole de la MONUSCO.
Merci, c'est Marthe Bossoy-Nolé pour l'agence France Presse. J'aimerais savoir, au niveau de la frontière burundaise, vous avez évoqué tout à l'heure la dégradation de la situation sécuritaire, je suis le porte-parole. On peut en savoir un peu plus, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on voit sur le terrain?
Oui, merci pour votre question qui a trait à la situation sécuritaire dans la plaine de la Ruzizi. Comme vous le savez, la situation politique au Burundi, avec son lot d'infortunes que nous suivons tous les jours, a provoqué bien sûr des déplacements de population en République démocratique du Congo, mais aussi dans les autres États riverains du Burundi. Évidemment, c'est une préoccupation majeure en termes d'abord sécuritaires, parce que c'est un flux de personnes qui entrent en République démocratique du Congo, donc il faudra procéder à un triage, à une mobilisation des forces de défense et de sécurité pour savoir qui entre, qui n'entre pas pour poser des problèmes éventuels. Le deuxième aspect de ce flux de réfugiés en République démocratique du Congo, parce qu'il faut savoir que face à la violence, face à l'insécurité, les gens ont naturellement tendance à aller se mettre à l'abri. Donc, la conséquence est d'ordre humanitaire sécuritaire. Mais au niveau de la MONUSCO, ce qu'il faut retenir, c'est que, au plan sécuritaire, des mesures de contingence ont été mises en place pour essayer de contrer toute éventualité et de concert avec les forces de défense et de sécurité congolaises qui sont déployées dans la plaine de la Rusizi.
Magazine des Nations Unies. Portrait du jour.
Je m'appelle Nicole Koudiangela, je suis mariée et mère de 4 enfants. J'ai fait mes études primaires au groupe scolaire du Mont en Bas et j'ai terminé chez les Sœurs du Sacré-Cœur à l'internat. L'université, j'ai fait l'Institut supérieur des techniques de l'information, ici en sigle, ensuite IFASIC après, là où j'ai terminé en communication sociale. Parcours professionnel, donc après mon stage à Radio Capi, j'ai été retenue comme pigiste, ensuite reporter animatrice, et puis voilà, maintenant je travaille comme animatrice, productrice de la tranche découverte. Mes tâches quotidiennes, chaque matin je dois faire des recherches sur les artistes, la musique qu'il y a dans ma programmation. Et après cela, je prépare le conducteur que je dois remettre au technicien. Et puis je prépare les sons, je dois réécouter tous les sons qui vont passer, je dois réécrire tous les lancements. En fait, je fais deux tâches, je suis secrétaire de rédaction, je suis également animatrice, ce qui fait de moi la productrice de l'émission en fait. Et avant l'agence, quand j'ai commencé l'université, j'avais arrêté pour m'occuper de mon mari. Je m'étais mariée entre-temps. Je devais m'occuper de mon ménage et j'ai recommencé l'université après. Donc, le travail m'a trouvé à l'université. Radio Capi m'a trouvé à l'université. J'ai commencé et depuis, je suis là. Mon temps libre, eh bien, d'abord, je vais commencer parce que j'aime manger. Je suis congolaise. J'aime bien la cuisine traditionnelle congolaise, genre Pondwa Limbondo, genre Mbisiako Kauka, ce genre de mets que j'aime bien, en tout cas la cuisine traditionnelle congolaise. Je ne suis pas trop fan de la cuisine d'ailleurs, j'aime bien la cuisine de mon pays. Le sport, chaque matin je fais la marche, j'aime bien la natation également. Chaque matin j'aime bien marcher librement, respirer de l'air frais, c'est ce que je fais le week-end. Tous les jours, je suis dehors pour marcher pendant au moins une heure. J'aime la musique congolaise, surtout des années 90, la musique de Mbili Abel, la musique de Wenge Musica des années 80, la musique de Kofi, le début de Kofi, genre coucou, j'aime bien Diva, j'aime bien l'époque de coucou, comment zangana photo te, ponasina changa, ce genre de musique, j'aime bien. Et le loisir, j'aime bien les détentes, manger du bon tabac avec les amis dehors, j'aime beaucoup. Et j'aime également recevoir chez moi, préparer pour les amis, manger ensemble un bon liboke angolo, un bon liboke angoulou avec les amis. Et vraiment, c'est ma joie. Projet d'avenir, je suis trop fan de la mode et mon projet d'avenir, c'est que je puisse emmener cela, partager ma passion avec les filles, les femmes et pourquoi pas les hommes de ma province d'origine. Ma province d'origine, emmener tout ce que je sais, des nouveaux concepts là-bas et pour partager ce que je sais de la mode, partager ma passion avec toutes les filles et tous les hommes de ma province d'origine, la province de Bandundu. Merci.
Magazine des Nations Unies. Tout sur les faits saillants des activités des agences du système des Nations Unies en RDC. Chaque dimanche de 10h à 10h30, heure de Kinshasa, sur Radio Capi.
Trois journées mondiales seront célébrées la semaine qui commence, le 15 juin, journée mondiale de la sensibilisation à la maltraitance des personnes âgées, le 17 juin, journée mondiale de la lutte contre la désertification et la sécheresse, et le 20 juin, journée mondiale des réfugiés. C'est ici que prend fin notre émission, coordonnée par Jean-Pierre Elali Ikoko. Honoré Mistenga était au reportage, Thérèse Bassoubi à la présentation, avec le concours à la technique de Jean-Noël Mokondo. Vous pouvez retrouver ce numéro des magazines des Nations Unies sur le site de RadioCapi.net. Rendez-vous donc dimanche prochain pour une nouvelle édition de ce magazine consacré aux agences des Nations Unies et à la MONUSCO. Excellente journée dominicale à tous.